Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex. Aujourd'hui, c'est le 42e numéro de notre émission Marie Nostrum avec Fabrice, bien sûr, toujours à la technique, et votre serviteur Raymond, qui assure la préparation et la présentation. Alors, avec notre invité, aujourd'hui, nous allons évoquer des constructions privées qui se sont diffusées dans l'Empire romain le long des côtes de la Méditerranée, de Marie Nostrum, donc on tombe bien là sur notre thématique. Constructions luxueuses, faites pour le loisir, également les affaires, qui sont également la marque d'un certain niveau social et qui sont aussi l'empreinte d'une romanisation d'espace romain, puisque au fur et à mesure que l'Empire romain se développe également ces constructions particulières qu'on appelle les villae maritimae en latin. Voilà. Et pour ce faire, pour en discuter et pour nous donner des précisions sur ce thème, on reçoit Giulia Ciucci. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes docteur en archéologie, chercheur associé à l'IRA. L'IRA, c'est donc l'Institut de recherche sur l'architecture antique qui a son siège à Marseille.
À Aix,
qui a son siège à Aix. Ah oui, c'est l'INRAP qui est à Marseille.
Oui.
Qui est donc un laboratoire de la MSH. Tout le monde connaît la MSH, tous les auditeurs connaissent la MSH puisque c'est notre partenaire le plus régulier à Aix-Marseille Université. Vous travaillez donc avec l'École française de Rome, avec l'ABEX-MED, qui est donc le centre de recherche d'AMU,
exactement,
d'Aix-Marseille Université, le centre Camille Julian, qui est un autre
centre de recherche.
Voilà, un autre centre de recherche de la MSH. Et votre spécialité, bien sûr, porte sur l'architecture dans l'Empire romain, et en particulier cette architecture privée, ce qui est un peu particulier par rapport aux monuments publics. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors donc, nous allons évoquer tout ça. Donc ces résidences de luxe, qui sont également des résidences de loisirs dans l'Antiquité romaine, on va d'abord définir ce que c'est, si vous voulez bien.
Oui, alors premièrement, merci beaucoup pour cette invitation. Et ce sera avec grand plaisir que je vais parler avec vous de ce sujet que je traite depuis plus d'un an. Donc effectivement, les villes maritimes, ils ont une architecture très, très particulière. Et même si on a un mot, donc villa maritima, une définition précise de ce contexte, de cette architecture, nous échappe. Mm-hmm. Il faut penser par exemple qu'une villa maritima, c'est la villa Iovis à Capri, sur l'île de Capri. Et cette villa, elle est sous le mont de Capri et elle n'a pas de contact avec l'eau. Pourtant, elle est une villa maritima parce qu'elle est entourée par l'eau de mer. Mmh. Et donc, c'est surtout un rapport visuel. On a d'autres villas maritimas, par contre, qui ont des structures submergées à contact avec l'eau, notamment les viviers, par exemple. Et là, on est bien dans la définition de villa maritima. Donc, si la définition stricte n'existe pas, il faut chaque fois récaler le contexte de chaque monument par rapport à la mer. Il y a quand même un élément unique qui met en relation soit les villas qui ont un rapport direct avec la mer que les villas qui ont un rapport indirect, c'est le bruit. Le bruit de la mer arrive sous la villa Iovis alors qu'elle ne touche pas l'eau et elle arrive bien sûr sous les villas qui ont des aménagements dans l'eau. D'ailleurs, Pline, il nous parle aussi des villas qui sont abritées, qui ont des parties abritées parce que parfois, le bruit de la mer, ça devient dérangeant. Donc, ils ont des chambres très éloignées pour s'éloigner du bruit de la mer.
Ah oui, d'accord. Donc, la spécificité, c'est ce bruit. Donc, ce sont des constructions qui sont bercées par la mer.
Exactement. Alors, il y a des points où, par exemple, à Saint-Cyr-sur-Mer, pas loin de Toulon, entre Marseille et Toulon, on a une villa maritima qu'on peut visiter. Et en faisant une reconstitution 3D avec Edicom, notamment Fabrice Paul, qui travaille ici à Aix-en-Provence, on a pu voir que depuis la deuxième terrasse, on ne voit pas la mer, alors qu'aujourd'hui, on la voit parce qu'on voit les vestiges. Mais à travers la restitution 3D, on a pu mettre le bruit de la mer et donc on pouvait profiter de la mer, même sans la voir, en fait. Ah, oui, c'est très intéressant, cette relation indirecte et invisible, si je peux le dire.
Ah oui, oui, oui. Ah, ça c'est drôle, ça. Hein. Ça, c'est vraiment drôle. Donc, la définition, elle est un peu, j'allais dire, flottante. Bon, c'est peut-être aller un peu loin. Et ces résidences, est-ce qu'elles sont nombreuses pour évaluer un petit peu l'importance de ces constructions? Il y en a beaucoup.
Alors,
dans l'Empire romain?
En Italie centrale, surtout, c'est là que ce modèle naît. on a beaucoup de villas. D'ailleurs, on a des sources anciennes qui nous disent qu'ils n'arrivent plus à distinguer la fin d'une villa par rapport à une autre parce que toute la côte était caractérisée par ces villas. Donc, c'était vraiment un élément caractérisant de la côte. Et ici, dans le sud de la Gaule, par exemple, et dans d'autres endroits où l'Empire romain arrive, les Romains arrivent, ça commence à être un marqueur, effectivement. Donc, il faut imaginer qu'au-delà de la villa de Saint-Cyr, ici, par exemple, on avait d'autres villas. Récemment, il y a une grande villa qui a été découverte à Narbonne, et on pense être la villa d'Auguste. Et donc, c'est sûr que tout le littoral était bien marqué par ces villas. Il faut penser aussi que les côtes, même aujourd'hui pour le tourisme, sont très intéressantes depuis toujours. Et donc, beaucoup de villas ont souffert des constructions modernes, ont été détruites. Et donc, forcément, on n'a pas l'accès à ces données. Mais le fait qu'on ne les voit pas, ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas là.
D'accord, oui. Oui, donc, il y avait, les côtes étaient très construites avec ces villas, couvertes de ces villas. Et ça suivait, en quelque sorte, la colonisation, en quelque sorte, de l'Empire romain.
Oui, alors c'est très intéressant parce qu'on voit, avec l'expansion de l'Empire romain, on voit la diffusion de ce modèle architectonique. La chose très intéressante que j'ai pu rencontrer pendant mes études, c'est que ce modèle architectonique est répété dans la même forme dans les Provences, notamment ici, dans le sud de la France, mais avec des techniques de construction différentes. Mmh. Donc, on connaît plus ou moins tous l'opus reticulé. Donc, c'est cette technique de construction faite un peu comme un filet romaine. Mmh. Et donc, toute l'Italie est caractérisée par des villas maritimes avec cette technique de construction.
D'accord.
Et dès qu'on dépasse la Ligurie, eh ben, cette technique de construction, on ne la retrouve plus pour des villas de la même époque. Et on retrouve une technique de construction différente, locale, qui peut-être remonte aux traditions gauloises de cette partie géographique. Et donc, je pense que là où il y avait une tradition architectonique déjà un peu plus forte, quand les Romains ils arrivent, eh ben, il y a un mélange entre savoirs différents qui proviennent de différents domaines et qu'ensemble arrivent à créer des nouveaux modèles.
En même temps, c'est une constante de l'Empire romain.
Oui.
dans à peu près tous les domaines.
Exactement.
Dans le domaine religieux,
Le syncrétisme.
Le syncrétisme, c'est une constante de l'Empire romain. Alors, donc, ces villas, résidences donc... on pourrait presque dire estival, pourquoi pas, résidence de luxe, résidence de loisirs. Alors, elles ont quand même un rôle social et économique. Alors, est-ce que, c'est une question que je voulais vous poser, est-ce que ces villae maritimae sont le signe d'une ouverture aux loisirs de l'Empire romain vers la mer?
Oui, alors, on peut penser à cet aspect aussi. Surtout, c'est des résidences de luxe. Et donc, forcément, le luxe entraîne après le loisir. Encore aujourd'hui,
c'est la même chose. C'est vrai, c'est une constante.
Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comme les villas maritimées romaines ont été occupées par des villas maritimées actuelles, aujourd'hui, et détruites en part. Mais comme le lieu n'a pas perdu son valeur. Et dans ces villas modernes, on trouve des piscines, des aménagements pour le loisir. Alors, pour les villas romaines, on sait par les sources anciennes que c'était aussi des lieux de loisirs, notamment Baïa, c'est une ville immergée actuellement au sud de Naples. Et on sait par les sources anciennes que c'était un lieu où on pouvait devenir fou, tellement on s'amusait, etc. Et vous savez que la tradition...
C'était Ibiza
plus ou moins, je pense que c'était un peu... D'ailleurs, c'était le lieu préféré par Néron, donc ça va bien avec sa personnalité.
Ouais.
Et justement, Sénèque, c'était le précepteur de Néron, Dans ses écrits, il dit qu'il faut rester loin de Baïa parce que c'est vraiment un lieu de perdition. Donc, elle est décrit, ce lieu, il est décrit vraiment avec les pires adjectifs pour cet endroit. Mais c'est vrai que c'était un endroit préféré de Néron, justement pour le loisir, parce qu'on avait des jeux de théâtre, on avait une vie extraordinaire, très luxueuse et tournée vers le loisir. Et c'est un lieu qui est resté mythique parce que c'est là que Néron fait tuer sa maman, Agrippina.
Ah oui, là, on sort du loisir, là.
Alors, on sort du loisir, mais vous pouvez voir comme le même lieu peut avoir différents visages, différents aspects. Et ce mythe d'Agrippine reste encore aujourd'hui dans les vestiges des villas, parce qu'on dit que dans les soirs de lune pleine, on peut rencontrer le fantôme d'Agrippine en train de se brosser ses cheveux. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Donc, il faut aller pour voir si c'est vrai ou pas. Mais tout cela pour dire que ces vestiges marquent encore profondément la tradition locale aussi et sont bien intégrés aussi dans le paysage. Dans une situation très particulière, parce que Baïa, donc, elle a toute une partie qui est encore hors de l'eau, mais toute une grande partie qui est, pour l'effet du bradicisme, est tombée sous l'eau. Donc, le seul moyen pour aller visiter ces villas, maintenant, c'est avec masque et tuba ou avec des bouteilles.
Oui, donc, finalement, la civilisation des loisirs, c'est pas récent. Quoi, hein, ça, c'était déjà le cas dans l'Empire romain. On va faire peut-être une petite pause musicale. Symbole des loisirs, mais c'est aussi ces villae maritimae, sont aussi le symbole d'une domination politique et sociale. Politique, l'Empire romain, sociale, dans cette société romaine, c'est bien vivant, pas ouvert à tout le monde.
Oui, effectivement, c'est un marqueur de status. C'est une architecture qui parle, une architecture qui indique la présence des Romains dans un territoire nouveau, par exemple ici dans la Gaule, et qui indique aussi une classe sociale bien déterminée, donc effectivement l'aristocratie romaine. Et comme vous disiez au début, c'est effectivement une architecture privée qui n'a rien à voir avec l'architecture publique, donc ce n'est pas des temples, mais que ça peut devenir public du moment où le propriétaire de la villa ouvre ses banquets à une grande partie d'invités qui touchent aussi d'autres personnes au-delà de l'entourage du propaitaire. Bien D'accord. sûr, c'est des invités d'une classe sociale comme la bourgeoisie, ben l'aristocratie. Oui. Donc, ça reste. Mais parfois, on a des éléments spectaculaires dans ces villas, justement pour impressionner les invités. Donc, on a la villa de Sperlonga, au sud de Rome, dans le sud du Latium. Et c'était la villa de Tibère, l'empereur.
Ah oui.
Et on avait une grotte naturelle qui reproduisait le mythe du cyclope avec Ulysse. Donc, vous imaginez, et c'était la salle à manger de la villa. Donc, vous imaginez pouvoir manger dans une grotte naturelle, côté de la mer, avec des statues géantes qui reproduisent le mythe de l'Odyssée. Donc, c'était vraiment aussi des effets spectaculaires qu'on retrouve, heureusement, et qu'on peut imaginer. Mais je pense qu'à l'époque, ça devait être vraiment quelque chose de spécial.
Ah oui, oui. Et on a donc des traces, quand même, de ce type de lieu de loisirs, là, de ces grandes pièces où il y avait beaucoup de monde, etc.
Oui, oui, on a justement, notamment les salles à manger. Donc, celle de Sperlonga, c'est une salle à manger. Et on sait par les sources anciennes que Tibère mangeait là-bas. Et il y a eu un moment où un morceau de grotte s'est détaché et sa garde du corps l'a sauvé. Et c'est à partir de ce moment qu'il n'a plus voulu aller manger et vivre dans cette villa. Et pour ne pas retourner à Rome, parce que c'était déjà une ville très chaotique, il choisit Capri. Donc, il passe de Sperlonga à Capri, donc toujours entouré par la mer. Mais cette grotte, du coup, elle tombe dans l'oubli après et on a les premières fouilles archéologiques à la fin de 1800. On commence à retrouver
les traces de cette villa.
Exactement. Après, on a toute une série d'aménagements avec des bassins d'agrement, des jeux d'eau. Donc, c'était vraiment... il y avait toujours un contexte spectaculaire. Je sors un peu des villas maritimes, mais je rappelle aussi un autre contexte de spectacle à l'intérieur d'une architecture privée, et c'est la salle à manger tournante de Néron, sous le Palatin, que Françoise Villedieu a récemment retrouvée. Et donc, on avait une tour, c'était une salle à manger, qui tournait le jour et la nuit, avec tout un système compliqué hydraulique, dans laquelle on pouvait manger et voir complètement Rome. Donc, le jeu de spectacle et architecture privée, banquet, etc., est quelque chose de très... répondu dans
l'Empire romain, c'est très présent.
Dans l'architecture privée, d'un certain niveau.
Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est également ces édifices, est-ce que c'est également un signe de l'assimilation des populations dans l'Empire ? Est-ce que l'aristocratie locale, puisque va naître également dans l'Empire romain une aristocratie locale, qui va petit à petit s'assimiler. Est-ce qu'ils vont suivre le même chemin, ces aristocrates, et avoir les mêmes comportements ?
Alors, on n'a pas beaucoup de traces archéologiques pour le dire, parce que malheureusement, l'architecture sur ça, elle ne nous parle pas trop. Mais il faut imaginer, par exemple, pour Saint-Cyr-sur-Mer, toujours, que la première génération, ça doit être un général romain qui est arrivé ici et qui a été particulièrement doué pendant les batailles et la conquête. Mais la deuxième génération, la troisième génération, il faut forcément penser quand même à un mélange avec l'aristocratie locale et les gens du lieu. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on retrouve des savoir-faire d'ici.
Oui,
donc,
locaux. Ouais.
Et Queenie, et donc, je pense vraiment que ça peut être... il faut imaginer, on peut faire l'hypothèse d'un mélange entre les deux aristocraties. D'ailleurs, on l'a dit, les Romains, ils n'étaient pas fermés, ils n'étaient pas...
Exactement.
L'intégration...
Oui, oui. Partout, dans tous les domaines, quoi. Le domaine religieux, le domaine social...
Exactement.
Le domaine politique, etc. Il y avait une imitation qui était véhiculée par les Romains et qui prenait racine, en quelque sorte, dans les empires qui étaient colonisés.
Exactement.
Et donc, on a parlé des activités de loisirs, un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres activités dans ces villas ? Est-ce qu'on fait autre chose que les loisirs ? Est-ce qu'on fait autre chose que s'amuser ?
Oui, forcément, parce que sinon, je pense qu'ils n'allaient pas loin. Alors, c'est vrai que c'est une aristocratie, ils sont très riches, ils n'ont pas besoin de travailler. Mais quand même, construire et entretenir une villa au bord de mer, ça demande quand même beaucoup d'argent. Et si on n'a pas une entrée régulière, on peut être même l'empereur. Bon, peut-être l'empereur, oui, mais l'aristocratie, elle ne pouvait pas avoir une villa comme ça sans avoir des entrées. Donc, si on regarde attentivement les structures qu'on retrouve dans ces villas, on a des viviers. Et c'est des viviers qui présentent des dimensions assez importantes, normalement, pour les poissons. Donc, il faut imaginer qu'une partie de ces poissons cultivés dans ces viviers étaient élevés, dans ces viviers étaient pour les habitants de la villa, mais qu'une grande partie pouvait être aussi pour la vente et l'exportation du poisson frais dans l'arrière-pays. Et en plus, il faut penser que la Villa Maritima, elle a un côté mer, mais aussi un côté dans l'arrière-pays. Normalement, c'est le fundus, donc des propriétés du propriétaire de la villa, qui étaient cultivées avec de l'huile, des oliviers, par exemple, des vignes pour la production de l'huile et du vin. Et d'ailleurs, on a le témoignage de navires qui faisaient le sud de la Gaule, l'Italie centrale, avec un amphore avec de l'huile et du vin. Et souvent, sous ces amphores, on a l'indication d'où le vin ça vient. Donc, on voit bien, on peut retracer. Et ce commerce était lié principalement à la production qu'on faisait dans les villas. D'ailleurs, on a des pars fructuaires, et on la perd. Donc, c'est la partie vraiment dédiée à la production. Et récemment, en Croatie, j'ai pu participer à des fouilles dirigées par Corinne Rousse, avec la participation du Centre Ami Julien, Aix-Marseille Université, École française de Rome et le musée de Poreč, la ville dans laquelle nous faisons les fouilles. Et donc, on a porté à lumière toute la partie fructuaria. Et maintenant, on est en train d'étudier si c'était une production à vin ou à huile. Donc, c'était quelque chose de très intéressant. Il ne faut pas oublier cet aspect de production aussi de la Villa Maritima.
Oui.
Si on lit les sources anciennes, on a l'impression, effectivement, comme je vous disais, que c'était un lieu de loisirs et de fêtes pérennes. Alors que non, il y a tout un côté des productions qu'on retrouve à travers les traces archéologiques qu'on fouille. Et qu'il ne faut pas négliger.
Oui, ce qui veut dire quand même qu'il y avait des installations portuaires, en quelque sorte, forcément.
Alors oui, dans le sens que forcément, il y avait bien un moyen d'arriver à la villa à travers la mer. Donc, mais il ne faut pas oublier que l'entrée principale était sous la terre, donc d'un l'autre côté.
Oui.
Mais on avait quand même cette façade maritime qui marquait le paysage côtier. Et sûrement, comme ça arrive encore aujourd'hui, le propriétaire de la villa avait une descente à la mer avec un petit bateau. Alors, il se peut que ces descentes ont été en bois. Et donc, aujourd'hui, on ne les retrouve pas. On n'avait pas vraiment de ports monumentalisés, comme on peut retrouver les grands ports d'Ostie ou ailleurs, mais sûrement des aménagements liés quand même à un édifice privé. Et même pour le commerce, on peut penser à du cabotage avec les grands navires.
Oui.
Voilà. Après, il faut penser aussi que la géologie des lieux a changé. Donc, par exemple, à Saint-Cyr, sur mer, comme aussi dans le sud de la Corse, à Piantarelle, notre villa à laquelle j'ai pris partie des fouilles, on avait des lacs, en fait, à côté de la villa, qui ont été ensemblés.
En sablé.
Ouais. Et donc, effectivement, on n'a plus la même conformation de la côte.
Oui.
Et donc, on peut aussi faire l'hypothèse qu'il y avait ces lacs qui servaient aussi d'abri pour les bâtons.
Oui.
Parce que notamment, Saint-Cyr, par exemple, aujourd'hui, elle est très exposée au vent. Et récemment, il y a encore un navire, un petit voilier qui a été emporté par la tempête. Et elle n'est pas du tout abritée par un endroit naturel où on peut faire un port. Donc on se demande encore aujourd'hui où il pouvait être le petit port lié à la villa.
Oui, d'autant que s'il s'agissait de cabotage, c'était vraisemblablement des petits navires, des navires pas très très gros, qui pouvaient être tirés sur la plage, et donc pas forcément à l'arrêt dans l'eau.
Non, c'est ça. Exactement.
Ouais.
C'est pas des gros aménagements non plus.
Voilà, c'est pas des aménagements lourds, c'est pas des ports, des ports commerciaux comme Ostie ou.
Non.
Voilà.
Hein,
c'est ça. Donc il faut quand même faire la différence, bien sûr. Alors donc d'autres activités, le commerce, la pêche, bien sûr.
Oui.
Oui, aussi, bien sûr, forcément.
Pour ça, on n'a pas vraiment des traces archéologiques, mais les viviers,
sait
bien que...
Ils étaient bien alimentés par quelque chose.
Oui, exactement.
Oui, tout à fait. Donc, finalement, donc, ces villas maritima, elles ont un rôle très, très divers, multiple. Hein, donc, on va essayer de voir maintenant, on va essayer de s'y approcher. Alors, j'ai trouvé dans vos textes, j'ai trouvé une citation de Xavier Lafont, qui est le grand spécialiste de ces constructions. Et j'ai bien aimé cette phrase, et ça va nous permettre peut-être de rester un petit moment sur la construction. Et il dit que ces villas, c'est la victoire de la terre sur la mer. Je trouvais que c'était très significatif comme définition. Alors, est-ce que ces constructions, on a déjà un petit peu évoqué, est-ce que ces constructions ont des particularités architecturales ?
Alors déjà, je partage avec vous effectivement la génialité qu'il y a derrière cette expression, parce qu'elle incarne vraiment la villa maritima, surtout que les Romains sont toujours décrits comme un peuple terrière, alors qu'ils étaient capables de construire dans l'eau, ou même de faire venir l'eau dans leur construction. Donc c'était vraiment...
Ah oui, c'est ou dans un sens ou dans l'autre.
Ou dans l'autre, donc ils étaient vraiment capables de tout. Et effectivement, Xavier Lafont est le plus grand spécialiste de Villa Maritima, et mes travaux, il prend au début de ses travaux, donc je le remercie, si je peux. Et effectivement, oui, effectivement, par rapport à une villa rustica, donc une villa dans l'arrière-pays, dans la villa maritime, on a ce problème, entre guillemets, de l'eau. Donc, il faut utiliser des matériaux spéciaux pour les constructions dans l'eau. Qu'est-ce que c'est, ces matériaux ? Ça peut être du mortier hydraulique, donc du mortier étanche, qui peut être obtenu grâce aussi à la pozzolana. La pozzolana, c'est une poudre noire qui vient de Pozzolo. Mm-hmm. Donc, encore une fois, on est au sud de Naples, au côté de Naples. Et elle a la propriété, justement, d'être mélangée et d'avoir un côté étanche. Donc, pour beaucoup des constructions immergées, on utilise cette solution de la pozzolana. Donc, cela nous indique aussi un commerce de ce matériau entre Naples et tous les endroits où on le retrouve. Et parfois, on le retrouve très loin, et ça nous donne des indices sur d'où ça vient aussi la fabrication des premiers matériaux. On retrouve souvent le tuf aussi de Naples, qui est exporté un peu partout et mis en œuvre ailleurs. Et donc, la capacité vraiment de Romains, c'était justement de trouver des solutions adaptées à l'eau, pour faire face à l'eau, mais aussi, ne pas seulement comme un obstacle qu'il est là à présent, mais aussi l'eau agitée, la mer en tempête. Donc, c'est des constructions qui ont complètement un autre plan d'ingénierie derrière, qui est vraiment très loin des contraintes que peut poser une villa rustique dans l'arrière-pays.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Donc, c'était vraiment quelque chose de spécial. Et ça, on le retrouve, donc, par exemple, pour tous ceux qui ont la façade maritime, qui était côté mer, les viviers. Donc, ça, c'est vraiment des structures construites sous l'eau, immergées. Les petits aménagements de portuaires, qu'on les retrouve si on les a. Et après, on a toute une série de bassins aussi, dans la villa elle-même, où on fait utilisation de ce mortier hydraulique. Donc, pour tous les passages de l'eau, même si vous pensez aux thermes, qui étaient toujours quelque chose de présent dans les villas maritimes, on a besoin de cette couche étanche qui protège les murs et les enduits du passage de l'eau. Donc, c'est vraiment une spécialisation dans la construction des villas maritimes qui est très caractéristique de ces typologies de construction et qu'on ne retrouve pas ailleurs dans d'autres contextes d'architecture privée.
Mmh. Donc, c'est une innovation importante dans l'architecture romaine d'avoir trouvé ce mortier avec des éléments d'étanchéité.
Tout à fait.
C'est quand même extraordinaire d'avoir
C'est une vraie révolution de la construction.
Et oui, de la construction.
Tout à fait.
D'avoir la possibilité d'aller construire donc sous l'eau.
Oui.
Encore aujourd'hui, c'est pas toujours évident.
Quoi, exactement. D'ailleurs, donc, ça serait un bon exemple à suivre.
c'est ça. Ouais, tout à fait. Oui, donc il y a vraiment des contraintes par rapport justement à cette situation. Et donc ces particularités, en particulier donc du mortier, sont quand même une belle innovation. Alors on va faire une petite pause musicale. Hein, on va écouter une partie de la bande originale du film Gladiator, parce qu'on pouvait pas passer à côté.
Ah oui.
Alors donc, des particularités architecturales et des contraintes de construction, et en particulier des contraintes liées au paysage, liées au site en lui-même, puisque on a le sentiment que les Romains cherchaient des sites les plus incroyables pour construire ces villages. Je me trompe ?
Non, c'est vrai. Alors déjà, le paysage, c'est un élément fondamental. Donc la vue de la mer, surplomber la mer, être face à la mer, c'était déjà quelque chose de très recherché. Mais c'est vrai que de l'autre côté, on est amené à construire sur des falaises. Par exemple, les falaises, elles ont, selon la géologie, elles ont quand même une stabilité plus ou moins forte. Et je fais toujours référence à Saint-Cyr-sur-Mer. On a toute une partie de la villa, donc de la façade maritime, qui est tombée à l'eau à cause d'un tremblement de terre. Et il y a eu un effondrement de la falaise. Donc là, on a perdu pour toujours une partie de la villa. Peut-être avec des recherches sous-marines, on pourra retrouver si rien n'a été pillé. Mais bon. Et donc, voilà, on ne construit pas dans des territoires qui sont protégés, dans quelque sorte. Donc, on ne construit pas sur une plaine ou à l'abri d'une colline. On construit, effectivement, dans des endroits où il y a des bratissismes, des tremblements des terres, des effondrements des falaises. Alors, des fois, les villas sont abandonnées suite à ces événements. D'autres fois, comme on voit Herculanum, par exemple, suite à des tremblements des terres, on retrouve des travaux antisismiques. Donc les Romains, parmi les autres choses, ils avaient inventé une technique de construction antisismique, c'est l'opus mixtum. Donc vous avez une partie de opus réticulé, un tuf, et le mur en opus réticulé est partagé avec des morceaux en briques. Ouais. Donc quand il y a un tremblement des terres, la brique arrête la fracture du mur. Donc le mur, il s'ouvre pas en deux comme ça arrivait. Et tout ça, on le voit après le tremblement des terres. Donc ils ont trouvé des solutions techniques aussi face à des situations naturelles. Bon, face au Vésuve, vous expliquez Laetitia Cavassa, c'était moins évident de trouver une solution. Mais par exemple, des solutions antisismiques ont été retrouvées tout de suite après des tremblements des terres. À travers les techniques de construction. Donc, c'est très intéressant de voir tout ça. Et les villas maritimes, bien sûr, c'était plus exposé à ce genre d'événements.
Oui, la proximité de la mer, avec l'instabilité de la côte, forcément. Quoi.
Ça crée des situations différentes. Ouais, ouais. Après, ce qu'on peut observer aussi, c'est une différente façon de se rapprocher au paysage. Pour cela, je veux dire qu'on a deux différentes typologies de villas maritimes. Une typologie architectonique qui transforme le paysage naturel qui existe en faisant des grandes plateformes, des grandes terrasses et en se mettant vraiment sous le paysage naturel, presque en discontinuité avec le paysage naturel. Donc on voit bien la construction romaine. Et donc on a des formes très carrées, très rectangulaires avec des grandes architectures. Et après, on a un autre modèle architectonique qu'on retrouve aussi en Croatie, mais aussi en Italie centrale, d'abord en Italie centrale bien sûr. Et c'est une architecture de villa avec des lignes plus rondes qui essayent de s'adapter au paysage naturel existant. Et donc là, on voit presque un respect et presque une envie de se cacher, presque de camoufler dans le paysage naturel existant. Et on voit là, à cette fois-ci, des lignes plus rondes, des bassins ronds, ou des exèdres, par exemple. Donc vraiment, même là, on a une architecture complètement différente pour la même solution architectonique, finalement, donc pour le même modèle architectonique.
Oui, c'est très moderne, quasi contemporain. Les architectes, aujourd'hui, cherchent assez souvent à se fondre dans le paysage. Et déjà, donc,
ils avaient déjà anticipé.
Mais ces constructeurs romains ont inventé plein de choses, finalement. C'est ça qu'il faut dire. Et dans ces constructions, il y a un élément dont vous pouvez peut-être nous dire deux mots, c'est quand même pour qu'elles tiennent, les villas, il y avait un problème de fondation.
Oui, alors les fondations, c'est vraiment une constante des structures romaines. La vraie révolution antécédente à tout ça, c'est le mortier, les constructions avec du mortier. Donc on passe d'un système d'appareil polygonal, superposé, à un système de petit appareil, donc l'opus incertum, où vous utilisez des petits morceaux de calcaire, surtout c'est du matériau local, et ensuite vous les liez avec le mortier. Donc ça, c'est la première vraie révolution romaine, de l'architecture romaine, de la technique romaine. C'est l'invention du mortier qui nous permettra de faire des murs constitués par deux paraments avec un noyau interne.
Oui.
Et ces murs, ils peuvent être construits avec une facilité, c'est plus simple de les construire. Et ça demande beaucoup moins de temps par rapport à l'appareil polygonal. Donc derrière tout ça, déjà, il y a une tradition architectonique très solide. Et bien sûr, les villas maritimes répètent toute cette tradition dans leur fondation. Donc on trouve des fondations assez importantes. Mais ce qui est intéressant de voir par rapport aux fondations, c'est que par exemple, si on a un terrain marécageux, sableux, etc., les fondations changent en fonction du terrain sur lequel...
Adaptées au terrain.
Exactement, parce que la réaction du mur par rapport aux vagues, par rapport à la sable, par rapport à autre chose, elle est différente si on construit, par exemple, dans un milieu où il y a du tuf ou du calcaire. Donc, on voit là aussi comment les ingénieurs romains adaptaient la typologie des fondations par rapport à la typologie de géologie et des géomorphologies qu'il y avait en face. Donc la connaissance aussi de la géomorphologie et du terrain était assez haute à l'époque.
Et dans ces... D'ailleurs, c'est étonnant cette construction des murs, comme vous l'évoquez, avec ces deux murs et puis au milieu, du remplissage. Quoi, hein.
Oui, du noyau.
Oui, c'est ça, le noyau, c'est du remplissage. C'est curieux parce que c'est une technique qui a été utilisée encore longtemps et qui a encore été utilisée, on va dire, jusqu'au 19e siècle, en France, dans les campagnes, etc. Il n'y a pas très longtemps, j'étais... dans la région, là, chez des amis, et qui me montraient justement que leur maison, qui est ancienne, elle était construite de cette façon-là.
Et elle est encore debout.
Et elle est encore debout, c'est ça. Elle avait peut-être deux siècles, trois siècles, elle était construite de cette façon-là.
Et oui, mais c'est une typologie des constructions. Mon prof de relevé à Rome disait que nous, on construit pour quelques années, et les Romains, ils construisaient pour l'éternité. Et je trouve que ça aussi...
Oui, c'est assez juste, hein, c'est sûr. Et il y a encore un petit élément qui me semble intéressant, c'est les enduits.
Oui.
Alors, ces enduits, eux aussi, ils ont certainement innové là-dedans.
Ah oui, c'est sûr que... Alors, les enduits, on connaît bien Pompéi et toute la partie... mythologique, des mythes et des fresques de Pompéi. Pour rester dans les villas maritimes et dans quelque chose de moins artistique, on voit que les mortiers hydrauliques desquels je vous ai parlé tout à l'heure, on voit aussi des enduits hydrauliques, entre guillemets, c'est-à-dire que les murs qui étaient face à la mer dans la villa de Saint-Cyr, par exemple sur mer, ils ont un enduit de protection très épais, composé par des petits morceaux de céramique qui permettent d'absorber l'humidité et qui protègent les murs de la salinité de la mer, des vagues, de la brise, etc. Donc, c'est vraiment une technique qu'on retrouve. Pour l'instant, je l'ai vu qu'à Saint-Cyr, on trouve des enduits de protection aussi ailleurs, mais à Saint-Cyr, c'est assez évident. Et ensuite, il faut imaginer que sous cette protection, il y avait aussi des enduits de finition. Alors, à l'extérieur, il faut imaginer des enduits des couleurs assez neutres. Mais toujours à Saint-Cyr-sur-Mer, malheureusement, aujourd'hui, on a perdu des très belles fresques qui étaient sur la terrasse supérieure et de quelles on a vraiment aujourd'hui très peu de traces, mais que vraisemblablement représentaient une chaîne de chasse.
Ah oui.
Donc aujourd'hui, malheureusement, on voit... Mais je suis en train de travailler sur ce sujet pour pouvoir... parce qu'en fait, on a eu la chance d'avoir des dessins du général Laflotte qui a pu voir la villa en 1910 et il a fait le dessin des fresques qu'il voyait.
Alors... ça a disparu depuis le début du XXe siècle.
Exactement.
Et comment ça? Il y a quelqu'un qui est venu les enlever
Non, alors la villa, elle est face à la mer, encore une fois. Et avant, elle était ensablée. Donc le sable protégeait ses fresques.
Quand elle a été dégagée, ça... Voilà.
Et donc on les a perdues. Mais grâce à ces dessins, maintenant on fait une archéologie de l'interprétation, presque. Parce qu'en partant de ces dessins, je suis en train de voir... de reconstruire effectivement la scène qui pouvait être représentée. Et on va voir si c'est possible aussi de faire un relevé des traces de couleurs qui restent sous la villa, parce que ça serait très important. Donc là, on était dans un espace toujours extérieur, parce que c'est un péristyle extérieur. Mais on a, vu que c'était une zone couverte quand même, on a ces belles fresques qui représentaient donc peut-être des chasses ou d'autres thématiques de la mythologie.
On va faire une petite pause musicale. On va revenir à ce groupe Sinolia, qui est un groupe qui s'est spécialisé dans la musique antique et particulièrement la musique romaine avec des instruments d'époque, etc., etc. Voilà, donc encore un morceau dont je n'ai pas le nom. C'est un disque qui porte sur les instruments. Bon, donc ces villas, elles vont évoluer puisque on a encore des traces aujourd'hui. Elles vont évoluer dans le temps, ces résidences, et elles vont se transformer. La plupart du temps, elles vont se transformer, ou elles vont peut-être quelques-unes vont disparaître, mais d'autres vont se transformer.
Oui, alors c'est assez difficile de savoir effectivement comment quand déjà ce phénomène s'arrête. On sait bien quand ça commence, donc on va dire que vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, en Italie centrale, on commence à voir les premières villas maritimes. La Villa Prato, par exemple, dans le sud du Latium, c'est une des plus anciennes. Et par contre, il est difficile de mettre une limite, on va dire, plus loin dans le temps pour déterminer une fin de ces constructions. Et comme vous dites bien, la plupart des fois, ces constructions se transforment en autre chose. On peut dire qu'à partir de la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, on ne voit plus en Méditerranée l'installation de nouvelles villas maritimes. Et on assiste à un phénomène assez intéressant parce que ces postations, ces villas, deviennent des postations de passage sur des grandes routes. Et donc, presque, ils se transforment de architecture privée, architecture publique, parce que ça devient un peu comme des auberges, effectivement. Alors, c'est tout à prouver, mais effectivement, ces endroits perdent la caractérisation de villa, d'architecture privée. Et d'autres fois, ils se transforment en village. Donc, plusieurs personnes récupèrent ces espaces qui sont plus habités par l'aristocratie romaine et forment des petites agglomérations au début. Parfois, on a des nécropoles aussi. Donc, à Saint-Cyr, toujours, on a une nécropole paléochrétienne juste à côté de la villa. Et ça dit, et un four qui, à mon avis, est postérieur à l'implantation de la villa. Donc, ça montre aussi une évolution de la villa, dans un contexte plus rural, si je peux le dire, donc plus lié à la production et à l'habitation de différentes personnes qui donnent lieu après à des petits villages, etc.
Oui, des activités diversifiées, et voilà, c'est ça.
Plus liées à la production, effectivement. Alors, il y en a certains sûrement qui tombent dans l'oubli, donc un peu comme Sperlong, parce qu'une fois que Tiberio quitte cette villa, effectivement, on n'a plus de nouvelles sur cette villa, on perd de presque les traces. Mais on sait que le village, donc, qui s'appelle Sperlong, et Spelunk, en latin, ça veut dire grotte. Donc, sûrement, entre la naissance du village et la présence de cette villa, il y a quand même une liaison très forte. Et elles étaient déjà implantées dans des positions stratégiques, même au niveau du contrôle de la mer, que c'est impossible que ce ne soit pas réutilisé après. Mmh. Et encore une fois, la villa de Saint-Cyr nous donne un bon exemple parce que sous la villa, on a une installation d'un bunker allemand. Et donc, une grande partie de la villa a été détruite, malheureusement,
pour construire le bunker.
Mais ça prouve que c'était dans un endroit vraiment contrôlé, tout la baie de la Ciotat.
Ah, oui.
Donc, c'était. Et ça, on le retrouve aussi dans l'Italie centrale, dans la villa de Giano, là, par exemple. On a des installations de la Deuxième Guerre mondiale sous les installations romaines. Donc, vous voyez, la vie de ces villas, elle est diversifiée
oui,
et très longue.
Oui, donc ça avait aussi un rôle stratégique.
Alors, du moment de l'installation, pas vraiment, parce que la Méditerranée, elle est contrôlée par les Romains.
Oui.
Mais c'est sûr qu'un contrôle quand même sous la mer était davantage. Et je pense que quand elles naissent, c'est vraiment profiter de la vue sous la mer. Mais ensuite, vu que la situation géopolitique dans la Méditerranée change avec la fin de l'Empire romain, c'est sûr que ces lieux, c'était des lieux stratégiques de contrôle sous la mer.
Oui, compte tenu de leur position, c'était des lieux bien situés pour pouvoir contrôler la mer. Donc voilà pour cette évolution. En un mot, cette évolution, elle s'est accompagnée auparavant, je m'embrouille, par des circulations de savoir-faire, hein, puisque on a évoqué tout à l'heure ce changement radical quand on passe les Alpes, par exemple, entre un côté et l'autre. Alors donc, on va refaire peut-être juste quelques secondes de musique. Alors, j'aimerais maintenant qu'on s'approche un peu plus de vos recherches, bien que notre entretien ait été extrêmement intéressant. Moi, j'aimerais savoir un petit peu quels enseignements vous avez tirés de vos campagnes de fouilles, surtout pour la suite de vos recherches, puisque vous prenez la suite, vous l'avez dit tout à l'heure, de Xavier Lafont, grand spécialiste de ces constructions. Alors, vous avez vraisemblablement des perspectives. J'aimerais qu'on évoque un petit peu ça, pour savoir où vous allez, quand vous allez revenir, ce que vous allez nous raconter.
Alors, si effectivement, cette recherche de cette année, qui était liée à une année de post-doc Lab Exmed et avec l'école française, m'a servi pour pouvoir aller voir sur place tous les sites de villas maritimes. Donc, notamment, je suis allée en Italie, sur la villa de Giano, là, qui est dans le sud du Latium. Elle est vraiment entre le Latium et la Campanie. Et c'est une villa tardo-républicaine où on trouve un vivier, des vasques, des citernes, donc vraiment tous les aménagements liés à une villa maritime. Et j'ai pu faire des rapports avec donc cette villa, la villa de Saint-Cyr sur mer, sous laquelle je travaille depuis quelques temps, et une villa en Croatie, donc la villa de Santa Marina, de laquelle je vous ai parlé tout à l'heure, dont on fait les fouilles avec, sous la direction de Corinne Rousse. Et ces trois sites m'ont donné un peu l'idée de la naissance et la circulation et la transformation de ce modèle. Donc vous avez en fait un site primaire originaire en Italie centrale et deux sites contemporains presque, un dans le sud de la France et l'autre en Croatie. Et donc voir comment ce modèle architectonique est diffusé dans les deux provinces romaines. Effectivement, on retrouve le même modèle architectonique avec des solutions, des techniques de construction très différentes. Donc, on a un petit appareil à Saint-Cyr, on a des Lobos in Khartoum en Italie, et on a encore un petit appareil à Santa Marina en Croatie, mais encore différent de celui de Saint-Cyr. Et la chose, l'élément que j'ai pu étudier aussi pendant ces campagnes de fouilles, c'était les citernes, et donc encore une fois le mortier hydraulique, mais aussi tout le système lié à la récupération de l'eau, le stockage de l'eau et la gestion de l'eau. Alors l'eau, c'est sûrement quelque chose de primaire pour la vie aristocratique dans ces villas. Il faut penser qu'elle avait des thermes, parfois plus d'une complexe thermale. Mais surtout, il ne faut pas oublier que l'eau est nécessaire pour la construction. Donc, si on veut avoir du mortier, si on veut avoir des enduits, il nous faut de l'eau.
Pas. On ne peut pas utiliser l'eau de mer.
Et on ne peut pas utiliser l'eau de mer. Donc, pour choisir aussi un endroit où construire ces sites, ces villas, il faut être attentif à avoir un endroit qui soit bien alimenté par l'eau. Et effectivement, la recherche sous l'eau m'ouvre des perspectives de recherche sous les villas insulaires, notamment sous les petites îles, où aujourd'hui on a l'absence de l'eau. Par exemple, je cite encore une fois Capri. À Capri, on a 12 villas maritimes et aujourd'hui, on n'a pas d'eau. Donc l'eau, elle est amenée par la côte, mais on n'a pas de source d'eau. Mm-hmm. Alors, c'est un peu bizarre qu'il y ait 12
parce
villas.
Que, comment faisait-il?
Donc, une étude archéologique et géomorphologique s'impose sur ces sites. Et voilà, c'est les perspectives vraiment de recherche pour mon étude. Et au cours justement de cette année, le rapport entre les différents villas, j'ai eu l'occasion aussi de voir la villa de Piantarella dans le sud de la Corse, ça m'a donné aussi des moments de réflexion par rapport au modèle architectonique et les solutions architectoniques adoptées par rapport au paysage.
D'accord. Et donc... Vos perspectives de recherche, elles sont forcément pluridisciplinaires.
Oui.
D'après ce que vous avez dit, c'est forcément pluridisciplinaire. C'est d'ailleurs ce qui émerge maintenant de toute la recherche.
Oui, je pense que vraiment...
On peut plus s'en passer.
Exactement.
Voilà, donc il y a forcément pour vous la géomorphologie, l'océanographie vraisemblablement, la recherche sous-marine. Il y a beaucoup de disciplines qui rentrent en ligne de compte pour arriver à résoudre les questions posées par ces villas maritimes. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de notre entretien. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces anecdotes qui vont au-delà d'ailleurs des anecdotes, dans la mesure où on est là, dans un contexte de construction très innovante, finalement, pour la période de l'Empire romain. Et ce qu'on espère, c'est que vos recherches vont aller encore plus loin et que, dans quelques temps, vous pourrez venir nous voir pour raconter les dernières nouveautés que vous avez trouvées.
Avec plaisir et merci beaucoup.
Merci à vous. Je voulais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent nous écouter le jeudi à 12h30 et le samedi à 15h à 19h en alternance sur 88.1 et sur radiozinzinex.org. Et vous pouvez également nous réécouter, télécharger sur notre site, donc radiozinzinex.org, dans la rubrique émissions Mare Nostrum. Et vous pouvez également y laisser des messages, puisqu'il y a une messagerie, des remarques, des questions auxquelles j'essaierai de répondre. Et puis je vous invite également à nous suivre sur notre page Facebook, Mare Nostrum, une émission de Radio Zinzinex. Au revoir, à bientôt. Thank you.
Thank you.